Scuba and Tommy and Nil on 2 for PLT-6 troubleshooting post USB jiggle.
Anil, thank you for calling. Go ahead.
I went ahead and looked at all the connections. They seemed on. I did jiggle them a little bit. I do see the Cat6 cable is showing green light and blinking orange, and everything else seems intact.
Okay, copy that. Thank you for the status. Then we need you to locate the USB cables labeled J03 and J04. Should be out from right-hand side and the back side, and those are going to Gem Camera Robot Docking Station. If you locate it, we need you to, just wanted to double-check if you can see them or not now.
Checking. There is a P as in Papa 13 USB cable coming out of the backside of PLT6.
I know, my bad, supposed to be good. The backside one is good, and the right-hand side must be 13 or 14.
Out of the right-hand side is Papa 14.
Copy, good number. I'd like you to cycle the connection, Papa 13 and Papa 14, please.
Didn't work. Should be done in about 10 seconds. Okay, they're cycled.
Okay, thanks. Cycle is complete. And please stand by. We're checking your status.
Sorry, can you repeat that?
We're checking the status now. Just couple, stand by, please, for a couple minutes. Okay, seems like no status change, and we have one more favor. Please go to the docking station of the Gem Camera Robot 2, and there are two USB connectors. That's J03 and J04, which should be on the right-hand side when you face to the Gem Camera Robot 2. I'd like you to cycle the connections for those two USB cables.
Okay, I'm looking at Gem Camera 2, and there is the power cable Papa 1, and there is a cable Papa 2 to BNC female.
Hey, just to be on the same page, I'm talking about the Gem Camera Robot, which is located at the forward. Oh, sorry, Gem Bay Zero area, just at the entrance of the Gem. So Gem Camera Robot is sit on the docking station. There must be two USB cables, J03 and J04. I'd like you to cycle the connection.
Oh, sorry, I understand. Yeah, I've just cycled those.
Thank you. We're standing by. I believe there's no idea. Once you're done with the cycle the connection. Station Scuba on Space Ground 2 for Anil. Thank you. We'll be in a 27-minute LOS in 1 minute. Great if you can report us the status after the LOS. That'd be great, but no rush.
Oh, sorry, I cycled it. What status are you waiting for here?
Okay, copy. All right, we see no changes, so we'll scratch our head. But thank you very much for the extra activities. We can let you go now.
Thanks.
Thank you. Great talk with you.
Houston Station 2 for PM events.
Sophie, Houston 2.
Good morning, Smash Night. I was wondering if I could do the PA event in Columbus instead of GEM. I just noted that Jessica has a relaxed productivity, but we are coordinating together. It works for her to just gather the equipment, and so it would work for both of us. Would it be okay for you?
Chicken. Hey, Sophie. No concerns from us if you do that PA event in Columbus. Let us know if there's any help you need with the config.
That's awesome. Thank you very much. Yeah, no help needed for now, but if it changes, I'll call you back. And thanks a lot. Station, Sophie on 2 for timeline and JSL brochure.
Sophie, we're with you on two.
I was wondering if you were able to support the JSL starter reboot activity a little bit ahead of schedule so that I can have study time together with Anil later.
I was actually going to call you to ask to move that to much later in the day. There's some data conflicts with the prop transfer that's ongoing on the Russian segment that we actually don't want to take that down right now. But if you're open to it, we can find a good time much later after your procedure review.
Oh, yeah, no worries at all. Let me know when it's convenient for you, and then we'll start our study review version with Emil. Yeah, great. So I understand, like, closer to the EVA procedure conference.
Yes, that's what I would expect, probably around 1600 or 1630, but we just have to confirm with Pluto when they come in.
Great, that will work for me.
Sounds good.
Thanks.
I think I stepped on you, Sophie. Did you have something else?
Again, left.
Great.
Houston, Jackson, Zomaduce, looking for go. TOCA water analysis. Steps 1 and 2, please.
Jack, Houston's with you. We've completed 1 and 2. You are go for 3.
3, thank you.
Jack, Houston on 2 for a follow-up on your buffer container swap.
Right hand, 2.
Electrons moved at the pace of the sound of my voice. We see the serial number for the new buffer container. That's what I was going to ask for, but it updated on the ground, so no action.
Nice. Electrons, sometimes they're not as fast as you think they are. Not as fast as you think.
And they're confusing, and they go backwards. It's all a mess.
I think Cold Atom Lab's on right now, so there might be some quantum mechanical stuff going on, just making things go weird.
Oh, no.
I'm still station on 2 with a question.
With you on 2?
Yeah, we just wanted to make sure that Carly Totter is in the room right now.
This is she.
Hello, Carly. Do you guys have the lab camera up?
We do.
Well, Carly, we wanted to say a few words for you because we hear that this is going to be your last shift as PACOM. And, of course, we know that you've been at PACOM since the great year of 2019, which I believe was, oh, yeah, that's right, it was Expedition 61. And you've made an incredible impact after coming from the BME world in Houston.
Carly stepped into leadership roles with ease, serving several stints as the increment lead PACOM and as training lead for the PACOM team.
Carly, you know you set high standards and trained most of the people we talked to today.
Carly, you know what? I've known you for, what, like 10, 15 years, and you've just been a wonderful friend, amazing co-worker, and from the BME years till now. And you inspired Jessica and I because you suggested that we do some recipes from space, and so that was the inspiration of putting on the chef hat and starting Shea ISS.
Everybody on the teams is going to miss your quirky Carlyisms and the joy that you bring to daily operations on the ground and in orbit. Even though you're headed back to Houston, score for us, you'll always be part of our ISS family. We just won't get to hear your voice on the loops anymore. Thank you so much, Carly, for all of your years of service, dedication, and heart. Enjoy the next chapter, and we thank you very, very much.
Let's go. See you in Houston.
Thank you, Carly.
Thank you all. It has been a true joy working with all of you. I truly enjoyed your video from Shea ISS, and I look forward to many recipes and many more moments with you all in the future, whether it's in Huntsville or in Houston.
Thanks again. We will see you soon.
Cell Station Jackson, the Deuce. You guys are welcome aboard Node 2, Cam 2 for Crystal Imagery.
And Jack, we're about 4 minutes before we get our KU back, so we'll check it then. And we'll also be moving these off then to Space to Ground 3, so Sophie can have Space to Ground 2 for her PAO then.
All right. right, Charlotte's lost. Switching two to three.
Station Houston on Space Ground 2 for Sophie. Just want to let you know we see a good scene and we're ready for a 10 count whenever you are. We're happy. Great voice check, Sophie. And just as a heads up, we'll give you a big picture on the JSL outage after your PAO event. Station, this is Houston. Are you ready for the event?
Houston, this is Station. I am ready for the event.
ESA PAO, this is Mission Control Houston. Please call Station for a voice check.
Station, this is ESA PAO. How do you hear me?
He's a PO from Station. I hear you loud and clear. Hello, everyone.
Thanks, Sophie. We will now transition to French, and I give the floor to Christine Chapelle.
Bonjour, Sophie. C'est Christine Chapelle. Ravie de te parler dans l'espace. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que ça fait d'être en dehors de l'ISS. Est-ce qu'on a le temps d'apprécier la vue?
Bonjour Christine, et ravie aussi de te parler depuis l'espace. Mais écoute, une sortie extravéhiculaire, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable, de c'est inimaginable. Même encore maintenant, je pense que j'ai du mal à me rendre compte de ce qui s'est passé, dans le sens où c'est une expérience qui est d'une intensité incroyable, tant dans la phase de préparation que dans la phase de l'ouverture du SAS et toutes les phases où ensuite on travaille, on fait le mécano de l'espace. Le temps d'apprécier la vue, c'est assez délicat parce que c'est vrai qu'on est très très occupé. Mais il y a eu quelques moments de pause où oui, j'ai pu apprécier la vue et me dire à quel point j'étais heureuse d'être là et chanceuse finalement d'avoir ce point de vue assez unique.
Les astronautes qui ont déjà fait des EVA m'ont dit que quand on sort les pieds en avant du SAS, malgré tout l'entraînement qu'on a eu, le cerveau se rebelle et dit non, faut pas y aller. Est-ce que ça t'a fait ça?
Alors, ce qui est sûr, c'est que dans toute la phase de préparation et toute la phase qui mène jusqu'à l'ouverture du SAS, en fait, il y a une réalité il y a une vraie dissonance cognitive. Dissonance cognitive entre une partie de soi qui a vraiment envie d'y aller, vraiment envie d'aller voir quel est le point de vue depuis là où d'aller travailler, etc., depuis l'extérieur de la station, et puis l'autre partie du cerveau qui se dit non mais... C'est complètement dingue. Est-ce que j'ai fait les bons choix de vie? Parce que quand même, c'est pas très... L'être humain n'est pas vraiment fait pour ça, en fait. L'environnement est hostile, tout est compliqué, le scaphandre est imposant. Donc voilà, il y a ce débat entre les deux parties du cerveau. Et pour moi, toute la préparation mentale, justement, c'était de me dire, bah ok, cette dissonance cognitive, elle existe, elle est vécue par tous les astronautes. Donc je demande juste à la partie de mon cerveau qui a l'analyse un peu plus négative de gentiment se taire pour que je puisse apprécier et faire un travail efficace. Et j'ai eu la chance en fait que voilà, cette préparation mentale, elle a très très bien marché parce que du coup, dès l'ouverture du SAS, tout de suite j'étais dans un état d'esprit très positif et j'ai pu vraiment apprécier chaque seconde. Pour évaluer la suite et ce qu'on va faire, mais principalement content d'avoir vécu ça en équipe.
Oui, surtout que je crois que vous n'avez pas pu tout finir, donc il va falloir ressortir.
Effectivement, c'est dans les discussions en ce moment, de grandes chances qu'on ressorte, mais bon, ça reste encore à décider tout ça, donc on est prêt. On a aussi un grand travail à fournir pour justement réévaluer et vu tous les soucis matériels qu'on a eu sur les vis et les connecteurs électriques, justement évaluer les stratégies, réadapter les stratégies et voir comment faire en sorte que ça marche à l'avenir.
Est-ce que tu as pu, alors là on est un petit peu en dehors de l'EVA, mais est-ce que tu as pu voir notre pauvre France ravagée par les incendies, desséchée de partout? Est-ce que tu as pu la voir? Est-ce qu'on voit les feux de forêt depuis l'espace?
Alors ce qui est sûr, c'est qu'on voit tous les champs qui sont jaunes et que la couleur de la France n'est pas la même en été après avoir séché comme ça, j'allais dire. Les feux de forêt, oui, on voit des masses de nuages et des fumées qui sont assez impressionnantes. Malgré ce que tu dis, on n'est pas complètement en dehors du cadre de l'EVA. Parce que j'ai tellement d'empathie pour les gens qui assistent et qui aident en fait à lutter contre ces feux que j'ai emporté sur ma checklist, sur mon bras pendant la sortie extravéhiculaire, un message. Je pense que les photos vont arriver dans quelques jours, là, le temps que les équipes les analysent et puis trouvent la bonne photo. Mais j'avais un message pour remercier les pompiers de leur travail héroïque pour aider à arrêter les incendies.
Est-ce que tu as hâte de rentrer?
Pardon, répète, j'ai pas entendu la question.
Est-ce que tu as hâte de rentrer sur Terre?
Ah, c'est gentil, merci pour la question. En fait, pour l'instant, je suis bien là où je suis à l'instant T. Je me dis que oui, je serais contente de redécouvrir les petits plaisirs sur Terre, mais quand je serai sur Terre, il y a toute ma vie d'ici que je laisserai ici aussi et qui probablement va me manquer. Donc ma philosophie, c'est plutôt d'apprécier l'instant présent plutôt que de me projeter dans un futur. J'apprécie l'instant présent et puis j'apprécierai l'instant présent de retour sur Terre aussi dans quelques semaines.
Merci beaucoup Sophie et bonne fin de séjour là-haut.
Merci Christine, à bientôt.
Thank you Sophie. We now hand the floor over to Quentin Benoit.
Bonjour Sophie et bravo pour cette première sortie extravéhiculaire. Alors ma première question c'était pour savoir comment on se prépare psychologiquement à une telle sortie.
Bonjour et merci pour cette question. En fait, la préparation psychologique, mentale, cognitive, physiologique, physique, etc., elle inclut tout en fait. Déjà, on a des équipes qui nous épaulent. On est loin d'être tout seul. On a des équipes, et y compris, puisque la question c'était surtout pour la préparation psychologique, on a des psychologues qui nous aident et qui nous posent les bonnes questions pour nous préparer un petit peu à tous les cas de figure qui pourraient se passer. Et puis, on parle aussi beaucoup avec les équipes avec lesquelles on travaille, hein, le flight director, les personnes qui vont nous guider à la voie, etc. Et puis, Annie et moi, en l'occurrence, on s'est préparé. On se prépare à tout ce qui pourrait se passer et surtout tous les cas non conformes en fait, toutes les éventualités. Et puis sur l'aspect préparation mentale et psychologique, en fait, moi, ce que j'aime bien faire à chaque fois que je fais quelque chose de risqué dans ma vie, et c'est arrivé quand même quelques fois maintenant, quand je faisais de la recherche et sauvetage en Afghanistan ou pilote d'essai, il y a des fois où j'ai vécu des phases intenses de missions risquées, on va dire. Et à chaque fois, pour moi, en phase de préparation, c'est détecter essayer de trouver, de lister toutes les petites choses où il pourrait y avoir un petit incendie qui s'allume dans mon cerveau et le cerveau qui se dit « Oh là là, pas normal, situation pas normale, comment faire ?» Donc, en fait, lister tous ces cas-là et de dire à chaque fois « Bon, ça, finalement, j'ai une réponse pour ça, voilà comment ça peut se résoudre, ça, on attend, on va au débriefing, etc. » Et puis, en fait, ce travail pour moi ça marche, chacun a ses petits trucs, hein. Pour moi ça marche, et puis en fait quand j'arrive et que je sens qu'il y a quelque chose d'impressionnant du coup qui se présente à moi, c'est ok, respire un coup, mais je connais la procédure. Et voilà, c'est mon petit travail, mais voilà, on est chacun différent, chacun a ses petites méthodes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une grande équipe qui nous aide.
Qu'est-ce que tu as ressenti lors de cette sortie dans l'espace? Là, on est 48 heures après, qu'est-ce que tu retiens de cette sortie? Et si tu devais avoir un souvenir de cette sortie, ce serait lequel, justement?
Donc, tout ça, c'était... c'est exactement quand... Enfin, les mécaniciens le savent très bien. Hein. Il y a la théorie, oui, alors on a le couple de serrage, etc., la vis qui marche sur tel boulon, etc. Mais la pratique est parfois différente et puis il faut s'adapter. Donc on a réussi à s'adapter à chaque fois et au final, enfin, ce qui s'est passé et qui a vraiment marché, c'est qu'on s'est senti en sécurité tout le temps et finalement, on est rentré dans la station en ayant fait une partie de la mission, mais avec tous les pépins qu'on a eus, on est toujours resté en sécurité, c'est ça qui comptait le plus finalement.
Et est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe, l'effort dans une sortie dans l'espace, et est-ce que tu te sens prête physiquement à réaliser une prochaine sortie dès mardi prochain?
Alors, j'ai pas entendu la première partie de la question, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît?
Oui, c'était pour savoir comment ça se passe l'effort dans une sortie spatiale comme ça. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'effort physique d'une telle sortie?
Alors, une sortie extravéhiculaire, c'est un effort physique qui est vraiment impressionnant. Jamais j'aurais imaginé que ce soit à ce point-là. En fait, il faut savoir qu'à partir du moment où on met le scaphandre jusqu'à... Donc, en gros, on a mis le scaphandre à peu près vers 9h-10h en heure locale ISS, hein, et on est sorti du scaphandre à peu près à 19h30. Dans cette phase-là, donc entre 9h et 19h, on a eu juste à nos dispositions 1 litre d'eau, c'est tout. Et pour autant, on a fait un effort physique équivalent à un marathon, mais avec le haut du corps. et avec juste 1 litre d'eau. Donc ça demande une préparation très particulière, avec exactement comme pour les marathons, une charge glucidique la veille, donc pour que les muscles aient assez de glycogène. Et ensuite le matin, eh bien déjeuner corsé, mais pas trop pour pas être malade, pas avoir de nausées, mais quand même assez plus plus fourni qu'un petit déjeuner normal. Et puis ensuite, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer dans la piscine, en fait. Sauf que la différence ici, c'est qu'il y a en plus tout l'effet de se dire que voilà, on est vraiment dans le vide spatial. Et ça, je pense que ça consomme pas mal d'énergie aussi. Donc voilà, effort intense. Le mouvement qu'on fait, c'est en fait comme le scaphandre est pressurisé, chaque mouvement est difficile en fait. Par exemple, quand on serre, là si je tenais le micro avec le scaphandre, ce serait comme serrer très très fort une balle de tennis. Voilà, tous les muscles sont sollicités. Là aujourd'hui, 2 jours après la sortie, j'ai encore des courbatures, mais elles vont ça va de mieux en mieux. Et donc oui, je serai prête pour une prochaine sortie mardi prochain. À voir maintenant quel programme va être décidé par la NASA et les équipes. En tout cas, je serai prête d'ici là, ça c'est sûr.
Et tu es la première astronaute française donc, à réaliser une sortie dans l'espace. Qu'est-ce que ça t'inspire? Il y a eu 4 autres astronautes français qui ont aussi effectué une sortie dans l'espace. Est-ce que ton expérience ressemble à leur récit et qu'est-ce qui t'a semblé inédit dans ton expérience?
Alors, par rapport, je vais commencer par la deuxième partie de la question. Oui, je pense que l'expérience que j'ai ressentie est proche de celle qu'ils ont ressentie sur le fait que c'est quelque chose qu'on vit qui sort de l'ordinaire, qui sort de l'imaginable. Et puis, il y a vivant cette expérience qu'on arrive à vraiment comprendre pourquoi c'est si incroyable et difficile à raconter finalement. Et pour donner un exemple un petit peu, une sortie extravéhiculaire. Vous savez, quand vous allez au bord d'une falaise et vous êtes dans une voiture et vous voyez le précipice et c'est joli, enfin, y a un beau paysage en fond, mais c'est juste joli, vous restez dans la voiture, c'est joli. sortir en sortie extravéhiculaire, c'est comme si à ce moment-là, vous décidiez de sortir de la voiture et vous voyez le précipice là, juste sous vos pieds, et sans barrière, sans rien du tout. Et donc c'était un peu ça le ressenti quand on part en sortie extraviculaire, on voit la Terre qui est juste là sous nos pieds, c'est pas du tout la même chose que de voir la Terre depuis la cupola avec les fenêtres dans l'ISS. Ça donne vraiment l'impression d'avoir enlevé plein de barrières de sécurité, mais on a quand même le scaphandre qui nous protège et on sait c'est notre vaisseau spatial finalement. Donc pour ça, je pense que le ressenti était très similaire aux autres sorties extraviculaires des astronautes. Sur le fait des chiffres et d'être la première française ou la cinquième, première femme française ou cinquième personne française à faire une sortie extraviculaire, les chiffres m'impressionnent un peu. Donc mon habitude, quand les chiffres m'impressionnent trop, j'essaye de me concentrer sur l'expérience vécue plutôt que sur les statistiques et les chiffres. Et puis voilà, je me dis que ça fera des choses à raconter à mon retour, des choses à transmettre à mes petits-enfants, et puis à tous ceux qui voudront écouter mes histoires quand je serai de retour.
Très bien, un grand merci pour votre temps, et bon séjour dans l'espace, alors, bonne conception.
Thanks, Sophie. We are now done with this
merci
event.
Merci beaucoup.
Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you.
Thank you to all participants. Station, we are now resuming operational audio communications. And Sophie, we have 40 seconds to LOS. We'll give you big picture JSL words after the short handover.
Happy LOS and see you on the other side.
Station Houston on 2 for Sophie and JSL activity.
Sophie's with you on 2, ready to copy.
Hey, Sophie, great job in that PAO event. We wanted to give you big picture words on the JSL activity that you had on your timeline earlier today. We pre-coordinated execution for that activity and wanted to propose that you execute it at 1450. And just as a reminder, that's going to cause a 10 to 25 minute outage of CloudNet and CrewNet, and you won't have access to ops products and your timeline. So for anyone who would need to reference timeline or ops products, you might want to pull those up in advance. And if you try to pull up something new or refresh your page, be advised that it can end your session entirely, and you may not keep access to the tabs that you had already pulled up. What do you think?
1450 works perfectly for me. I'll have a chat with everyone in the crew to make sure that we are all anticipating this. And thanks a lot. I'll do this on time.
Great news. I appreciate you letting everyone else know, 1450. And once we are complete, we will let you know because, like we said, it can take anywhere between 10 and 25 minutes for the outage.
Okay. So outage potentially between 1450 and up to 25 minutes after this.
That's a good read back, Sophie.
And Sophie on 2 for JSL Broadcaster.
Houston's with you on 2, Sophie. Go ahead.
This
was
just looking for your go on step
1.1. Sophie, you are
going 1.1. Here we go. And from Sophie, the lab JSL router was power cycled. All nominal.
Copy that, Sophie. Thanks for your report. We will stand by for your reporting completion of rebooting the lab 20 port switch.
Sophie, copies, just to be sure I understand correctly, you are standing by, but I'm still doing the 20-port switch reboot, correct?
Yes, that's correct. We would like you to do that now.
In work. Send from Sophie, that's done, and all good LED nominal.
Houston, copies, we will let you know once the outage is complete.
Copies.
And Station Houston on 2 for JSL, no response required. Services have been restored, so you should have access to your ops product and timeline again.
From Station, copy and those have permitted. It works up here. Thanks.
No problem. Houston copies. Station Houston on Space Ground 2 for Sophie and troubleshooting help. Station Houston on 2 for Sophie and troubleshooting help.
Houston, I got a minute for troubleshooting if you need it.
Hey, Jack, we will take the help. We need about 2 minutes of your time, and big picture, it's associated to some troubleshooting we've been trying to do for one of the controllers for one of our CO2 scrubbers, specifically 4-bed CO2. No worries, we still have full redundancy for CO2 scrubbing, but if you've got a second, I've got a location and some actions for you to copy.
Oh.
Awesome. So we'll have you go over to Lab 1 starboard, deck 4, and there should be a switch box there. We're moving Ethernet port 4, the cable that's in Ethernet port 4, to 11. Tom, copy.
All right, Ethernet from port 4 to port 11, and Lab starboard 4 deck, I see a 20-port network switch, serial number 1006. Is that the right one?
That's the right one.
4 is now 11, sir.
4 is 11. Thank you for your help, sir.
Node 60177. Node 6 4 3 4 3 0. Transceive.